Est en place pour le journal des Amériques et d'Haïti. Anne, bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. À la une de ce journal des Amériques, on va parler bien sûr du limogeage ou de la démission d'ailleurs de John Bolton, conseiller à la sécurité de Donald Trump, l'ex-homme fort du président. Les deux hommes étaient en désaccord sur de nombreux dossiers diplomatiques. On en parle dans un instant avec Romain Lemaresquier dans la revue de presse. Notre invité, le ministre des Affaires étrangères haïtien sur la situation aux Bahamas, la communauté haïtienne qui est la population la plus pauvre de l'archipel et qui craint d'être oubliée dans l'effort humanitaire. Et puis on va s'intéresser au clan Bolsonaro. Les enfants du président brésilien qui sont engagés eux aussi en politique et qui ont leur part de déclarations polémiques. La revue de presse des Amériques avec Romain Lemaresquier. Bonjour Romain.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une, le limogeage ou la démission de John Bolton, le conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Un départ qui fait l'unanimité dans la presse américaine ce matin.
Et pour cause, John Bolton et Donald Trump ne pouvaient pas être plus éloignés en matière de politique internationale, comme l'explique l'éditorialiste du New York Times. Si le président américain tentait de négocier une dénucléarisation de la Corée du Nord, John Bolton n'avait de cesse de répéter que la meilleure chose à faire était de bombarder le pays pour mettre un terme à sa quête nucléaire. Même discours concernant l'Iran ou encore le Venezuela pour lequel John Bolton militait également en faveur d'une intervention militaire. Même discours aussi concernant le dialogue entamé avec les talibans. Des divergences profondes qui avaient le don d'énerver le président selon le quotidien. John Bolton était isolé au sein de la Maison Blanche. Il ne parlait pas avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Une situation toxique qui a donc pris fin hier avec l'annonce du limogeage du troisième conseiller à la sécurité nationale depuis le début du mandat de Donald Trump.
Alors Romain, limogeage ou démission ?
Alors c'est la question que se pose toute la presse. S'est-il défenestré tout seul ou l'a-t-on poussé, s'interroge le New York Times.
Alors bien sûr, il s'agit d'une image, Romain.
Oui, bien entendu. Le fait est que ce départ est logique et intervient peut-être un peu tard, selon le Washington Post. La rigidité de John Bolton ne pouvait aller de pair avec la personnalité du président. Un va-t-en-guerre, comme le présente le quotidien, mais une personnalité bien connue de la classe politique américaine, puisque John Bolton a servi dans plusieurs administrations avant celle de Donald Trump. Tout le monde le connaissait et ses points de vue ne surprenaient plus personne. D'où cette question, ne s'agissait-il pas d'un mauvais choix pour un poste aussi important ?
Direction le nord du continent, Romain, puisque c'est aujourd'hui que débute la campagne pour les élections législatives au Canada.
Les chefs prennent la route, titre ce matin Le Devoir, comme le veut la tradition et comme l'explique le quotidien. Le premier ministre sortant, Justin Trudeau, se rendra à Rideau Hall ce mercredi matin, à la résidence officielle de la gouverneure général pour lui demander de dissoudre le Parlement en vue de la tenue du scrutin du 21 octobre prochain. Justin Trudeau avait jusqu'à dimanche prochain pour lancer la campagne électorale, mais il a préféré accélérer le pas, ce qui permet aux Canadiens de disposer de 41 jours pour faire leur choix, précise la presse, c'est-à-dire 36 jours de moins que lors de la campagne de 2015. Le Premier ministre sortant réclame un deuxième mandat après avoir dirigé un gouvernement majoritaire depuis 2015 et selon une panoplie de sondages publiés au cours des derniers jours, précise la presse, la lutte s'annonce très serré entre le Parti libéral du Canada et le Parti conservateur.
Le Venezuela lance des manœuvres militaires à la frontière colombienne, ce qui inquiète Bogota.
Oui, des manœuvres qui s'inscrivent dans la mise en place et le développement de l'alerte orange dictée par le président Nicolas Maduro, précise Ultimas Noticias. Une alerte déclenchée selon les autorités vénézuéliennes du fait des actions militaires colombiennes. Selon le quotidien non colombien El Tiempo, c'est tout un arsenal qui doit être déployé jusqu'au 28 septembre, date à laquelle doivent s'achever ces manœuvres, batteries de missiles à courte portée, tanks, véhicules blindés, moyens aériens, etc. El Tiempo a interrogé le général Luis Fernando Navarro, chef des armées colombiennes, qui dit être prêt à défendre les frontières colombiennes et l'intégrité territoriale. Un général qui précise que la Colombie ne tirera jamais en premier et que Bogota ne peut pas prendre à la légère de telles démonstrations de force.
En Argentine, Romain, nouvelle journée de mobilisation dans les rues pour dénoncer l'augmentation de la pauvreté, le chômage et la crise alimentaire.
Et oui, tout comme la semaine dernière, des milliers d'Argentins sont descendus dans les rues et ont occupé des magasins ce mardi. Une mobilisation qui devrait continuer aujourd'hui et demain, annonce le quotidien La Nation, puisque les représentants de ces manifestants n'ont trouvé aucun accord avec les autorités. Les manifestants réclament de nouveaux programmes sociaux, des emplois, une plus importante participation de l'État dans la distribution d'aide alimentaire. Pour la ministre de la Santé et du Développement Social, ces manifestations et occupations sont tout simplement une tentative d'extorsion, peut-on lire dans les pages de La Nation. Carolina Stanley se dit prête à discuter, mais pas à n'importe quelle condition.
Merci Romain Lemaresquier pour cette revue de presse des Amériques.
RFI à Jérémy. 92.7 FM.
On va parler à présent de la situation aux Bahamas, qui est toujours aussi confuse. Des milliers de personnes sont sans abri, ont été prises en charge dans des hébergements temporaires. Le bilan, vous le savez, pourrait se compter en milliers de morts. Une communauté en particulier se dit inquiète d'une possible montée des tensions avec la population locale et les autorités. Il s'agit des Haïtiens, la population la plus pauvre de l'archipel, qui vivent notamment sur les îles Abacos. Beaucoup d'entre eux sont sans papier. Ils craignent d'être oubliés dans l'effort humanitaire et appellent les autorités haïtiennes à se mobiliser en leur faveur. Edmond Bokchi, le ministre haïtien des Affaires étrangères, était de passage à Paris. Hier, il détaille au micro d'Arim Lipol les mesures prises pour venir en aide à cette population aux Bahamas, avant d'évoquer avec lui la crise politique, économique et sociale en Haïti.
Nous sommes en train de planifier, et du moins de continuer à planifier avec notre ambassade à Nassau. Et il y a eu d'abord une première assistance qui a été apportée à ses compatriotes par notre ambassade et qui ont été déplacés de Abaco, de Freeport. Maintenant, ils sont à Nassau. Et notre ambassade continue de travailler avec les autorités bahaméennes et aussi avec nous en Haïti, au ministère des Affaires étrangères, pour tout le monde avec le gouvernement haïtien, et voir comment on peut continuer à apporter toute notre assistance à nos compatriotes à Nassau.
Oui, parce qu'il y a eu des critiques sur les réseaux sociaux formulées par certains Haïtiens aux Bahamas, qu'il y a eu des manques de prise en charge et de soutien de la part du gouvernement haïtien.
Bon, écoutez, pour les critiques, nous en avons et nous en aurons toujours. L'essentiel, c'est ignorer ces critiques, ou du moins de les regarder et voir les côtés positifs et comment on peut apporter certaines corrections.
Quelle forme pourrait prendre cette contribution?
Je pense que dans un premier temps, comme le président l'avait dit, ça pourrait être une contribution sous forme de matériel que nous avons eu déjà dans des centres de la direction de la protection civile, par exemple, que nous avons. Et aussi avec l'aide de certaines organisations privées en Haïti. Il y a un hôpital privé qui a déjà envoyé un avion là-bas. Je sais aussi qu'il y a certaines communautés de la diaspora haïtienne, tant aux États-Unis qu'en Europe, qui mobilisent aussi pour apporter au nom d'Haïti leur contribution.
Monsieur le ministre, Haïti est confronté à une crise importante, une crise multiple, politique, économique, sociale, sans parler de l'insécurité. Beaucoup d'Haïtiens sont exaspéré devant une telle situation. Quel impact a cette crise multiple sur le rôle de la diplomatie haïtienne dans le monde?
La crise que nous vivons actuellement, c'est une crise multiforme. Et c'est d'abord une crise politique, c'est aussi une crise sociale, c'est aussi, je dirais bien, une crise de précarité. Mais malheureusement, en Haïti, la politique prime toujours au-dessus de tout. Hein. Quand il y a un problème politique, on a l'impression que le pays en entier s'arrête. Mais il y a une chose certaine que je peux vous dire, je peux vous garantir que il est de la volonté du chef de l'État, le président de la République, de voir comment trouver une solution durable, une solution le plus vite. Trop souvent, on voit Haïti avec des yeux de négativité et on voit seulement Haïti avec des images et qui font le tour du monde, des images seulement négatives. Mais Haïti a toute une histoire, Haïti a a beaucoup d'opportunités, Haïti a une richesse culturelle. Je pense que c'est sur ça qu'on doit les éterniser. Et oui, certainement, la diplomatie est là au service du développement. Et on doit continuer quand même à renforcer nos rapports avec nos partenaires internationaux.
Alors, vous parlez des images négatives. Derrière ces images, il y a une réalité qu'on ne peut pas nier. Prenons l'insécurité, par exemple, les attaques des gangs sur les routes qui empêchent la circulation des Haïtiens au jour le jour. Est-ce que Haïti, aujourd'hui, est capable d'assurer seule la sécurité de ses citoyens?
Certes, la question de l'insécurité, vous le savez, c'est pas un monopole haïtien. La question de l'insécurité est partout. Mais je sais que il y a des efforts qui sont en train d'être déployés maintenant au niveau de la police nationale. Et comme vous savez, il y a un nouveau directeur général de la police. Nous espérons que il va pouvoir quand même trouver les moyens. Et malheureusement, il y a encore un autre aspect que j'ai pas pu toucher, c'est l'aspect du budget national. Et vous savez, il y a pas mal de choses, pas mal de lois, de prêts internationaux, etc., qui sont encore bloqués au Parlement.
Parce qu'il n'y a pas de budget.
Parce qu'il n'y a pas de budget, le budget n'a pas été voté encore par le Parlement. Et malheureusement, nous avons une chambre de députés qui depuis hier lundi, qui est parti en vacances, qui ne va pas pouvoir revenir, sauf si le président de la République le convoque en Assemblée nationale. Mais ce sont pas mal de choses qui ont été déposées à la Chambre. Il y a le budget national, il y a la loi électorale, il y a des prêts et avec la Banque mondiale, le FMI, avec Taïwan, et j'en passe. Il y en a pas mal. Mais malheureusement, ces projets ont été abandonnés. Et il y a ce qui a provoqué une incidence majeure sur l'économie haïtienne avec le budget national qui n'a pas été voté.
Est-ce que vous attendez des solutions aussi de la communauté internationale? Et est-ce que Haïti, confronté à cette crise multiforme, comme vous dites, est un partenaire crédible?
Bien sûr, Haïti est un partenaire crédible. Et certes, nous avons nos faiblesses, nous avons nos problèmes comme tous les autres pays, probablement à un niveau moindre. Mais nous avons quand même des institutions qui, aux yeux internationaux, pourraient paraître des institutions un peu affaiblies. Mais d'où l'importance de l'apport de la communauté internationale, que la communauté internationale ne doit pas abandonner Haïti, même quand nous autres haïtiens, nous avons un effort et personnel, un effort haïtien, je dirais, à faire. Mais en même temps, pendant que chaque haïtien continue à contribuer pour un relèvement d'Haïti, mais la communauté internationale doit continuer à nous accompagner parce que nous restons, et nous avons toujours été, et nous restons encore un partenaire crédible, en dépit de nos faiblesses, oui, mais ça n'a rien changé en termes de crédibilité d'Haïti.
Merci beaucoup, monsieur le ministre.
Edmond Bokchi, le ministre haïtien des Affaires étrangères, au micro d'Arim Lipold. On part à présent au Brésil où l'on retrouve notre correspondant Martin Bernard. Bonjour.
Bonjour.
On va s'intéresser avec vous aujourd'hui au clan Bolsonaro, la famille du président brésilien, car il n'est pas le seul à défrayer la chronique. Ses enfants aussi, ils jouent un rôle actif en politique, Martin.
Oui, alors Jair Bolsonaro a 5 enfants et les 3 plus grands sont vraiment engagés en politique et jouent un rôle très important auprès de leur père. Ils ont tous les 3 une trentaine d'années et leur père les a surnommés 01, 02 et 03. Sans doute une habitude militaire de l'ancien capitaine Bolsonaro. Alors commençons par le numéro 2, Carlos Bolsonaro, qui est surnommé Pitbull. Il vient de déclarer: dans le système démocratique, la transformation dont a besoin le Brésil ne se produit pas à la vitesse souhaitée, en admettant qu'elle se produise. Fin de citation. Alors ces déclarations ont suscité un tollé général. Même le vice-président Hamilton Mourão, qui est un général, a condamné ces propos qui remettent en cause la démocratie près de 35 ans après la fin du régime militaire. Et puis le président de l'Ordre des avocats, Felipe Santa Cruz, dont le père avait disparu sous la dictature et qui a été raillé et moqué récemment par Bolsonaro père, a estimé qu'il n'était pas possible de tolérer une famille de dictateurs.
Alors Carlos Bolsonaro, qui est conseiller municipal de Rio depuis près de 20 ans, il n'est pas le seul fils du président à avoir obtenu un mandat politique.
Ah oui, vous voulez sans doute parler d'Eduardo Bolsonaro, le 03 dans le langage codé de la famille. Eduardo Bolsonaro est actuellement député, mais il est promis à un bel avenir puisque son père veut le nommer ambassadeur du Brésil aux États-Unis. Il est très proche de Donald Trump. Il y a même une scène cocasse lors d'un entretien entre Donald Trump et Jair Bolsonaro à la Maison-Blanche il y a quelques mois. Le ministre brésilien des Affaires étrangères était contraint de se retirer alors que lui, Eduardo Bolsonaro, est resté pendant l'entretien. Mais bon, Eduardo Bolsonaro n'a aucune expérience en diplomatie et son éventuelle nomination fait grincer beaucoup de dents. Alors, pourquoi Eduardo Bolsonaro défraie la chronique? Eh bien, parce qu'il est apparu cette semaine aux côtés de son père, qui se remet d'une opération à l'hôpital, en portant un revolver à la ceinture. La photo choc a fait le tour des réseaux sociaux et le lendemain, Eduardo Bolsonaro est apparu au siège du patronat de Rio, encore une fois, avec une arme.
Alors Martin, vous avez parlé du numéro 3, du numéro 2 de ce clan Bolsonaro. Qui est le numéro 1?
Alors, il s'agit du fils aîné Flavio, qui est actuellement sénateur. Il est plus discret, surtout depuis que l'opposition l'a accusé d'avoir des liens indirects avec la milice de Rio. Mais on voit bien qu'il y a un véritable clan Bolsonaro autour du président, un clan qui a une forte influence sur le pouvoir, qui utilise systématiquement les réseaux sociaux pour relayer son message et qui semble tester les limites de la démocratie.
Martin Bernard, notre correspondant à Sao Paulo. L'actualité des Outre-mer, à présent avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une aujourd'hui, c'est un rapport officiel qui l'affirme, la Guadeloupe subirait une dégradation généralisée de ses réserves en eau.
Oui, une dégradation des masses d'eau pour être précis, dégradation principalement due à l'activité humaine, selon le directeur adjoint de l'Office de l'eau de la Guadeloupe. Explication Franck Aristide.
C'est un rapport sur l'état des nappes souterraines, des rivières et de la mer que l'AFP s'est procuré qui fait cet inquiétant constat, celui d'une dégradation généralisée de nos eaux, responsable selon l'Office de l'eau, l'agriculture, mais aussi les défauts d'assainissement et dans une moindre mesure l'industrie. D'abord, la salinité de la nappe d'eau douce souterraine de Grande-Terre aurait augmenté en raison de l'intensité de son utilisation, notamment par des forages d'alimentation en eau potable, mais aussi en raison d'une pollution aux pesticides et composés azotés issus de l'agriculture. Ensuite, en mer, c'est l'absence de conformité du réseau d'assainissement et des stations d'épuration qui ferait des dégâts. Nos eaux usées, toujours selon l'Office de l'eau, finiraient en grande partie dans le Grand Bleu, causant la prolifération d'algues et mettant en danger les barrières de coraux. Seules les Saintes seraient épargnées. Enfin, la qualité de l'eau des rivières se serait considérablement dégradée depuis la dernière étude, vieille de 6 ans. Plus aucune d'entre elles ne serait en très bon état. Et là, le coupable est désormais bien connu, le chlordécone et ses nombreux dangers pour la santé.
Direction la Martinique maintenant, où les urgentistes se disent prêts à reconduire un mouvement enclenché il y a 3 mois dans l'île des Antilles. Alors certes, la ministre de la Santé Agnès Buzyn a fait des propositions, mais ces propositions ne répondraient pas aux problématiques bien spécifiques des urgences du CHUM, le centre hospitalier universitaire de la Martinique. Pierre Brié est le porte-parole des médecins urgentistes de la Martinique. Il est au micro de Bertrand Caruge.
On est en immense difficulté en Martinique sur la gériatrie. De par notre population, qui est beaucoup plus âgée que la moyenne nationale et qui en plus très vieillissante. Et on sait que ça, c'est une bombe en puissance qui va arriver dans les années qui viennent si on ne règle pas le problème. Et malheureusement, actuellement, non seulement le problème n'est pas en train de se régler, mais il est en train de s'aggraver. C'est-à-dire que tous les semestres, on ferme des lits de gériatrie parce qu'on n'a plus de gériatres quasiment en Martinique. Donc on a de moins en moins de lits et on a quasiment plus de gériatres. Et on n'arrive pas à faire venir des gériatres, on n'arrive pas à se rendre attractif pour faire venir des médecins d'ailleurs pour les garder ici. Et si on n'a pas de gériatres, on ne peut pas créer de lits de gériatrie. Et évidemment, si on ne peut même pas hospitaliser nos patients qui sont déjà vus aux urgences, c'est inenvisageable de créer en l'état actuel des filières courtes de gériatrie. Donc ces patients-là, âgés de 80 ou 90 ans ou plus, ils restent hospitalisés dans les couloirs des urgences, faute de solution.
Bon après-midi, Anne. À demain.
À demain. Bon après-midi à vous aussi, Benoît Ferrand. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous. Le retour de l'actualité tout de suite sur RFI.
RFI. RFI, c'est aussi sur notre site mobile m.rfi.fr et sur nos applications iPhone et Android.
rfimusique.com. Elle dépense son énergie et son talent sur des scènes d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Angélique Kidjo. Et plus de 350 artistes
à voir, à lire, à écouter
sur rfimusique.com.